أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة أيها الأخوات، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Nous allons parler d'un thème qui est à l'ordre du jour aujourd'hui, qui est le thème de la violence. Et le thème de la violence est effectivement un thème qui nous touche tous et qui touche ce que nous avons à faire dans la société qui est la nôtre. Permettez-moi simplement, par rapport à la question de la violence, de mettre en évidence une chose. Si vous parlez ici, vous êtes dans la société française, on pourrait considérer ça dans la société européenne dans son ensemble, on s'aperçoit que, évidemment, si je vous dis qu'est-ce que vous pensez de la violence, comme si je le dis à n'importe quel personne raisonnable dans cette société-là, qu'est-ce qu'on nous dit ? Nous sommes fondamentalement opposés à la violence. C'est quelque chose de négatif. C'est quelque chose contre lequel nous devons lutter. Et bien entendu, nous sommes tous de concert dans cette lutte contre les dérives violentes et contre tout type de violence. Reste que, après ce bon discours de principe, cette considération large sur la question de la violence, eh bien, on s'aperçoit que les élaborations qui vont nous permettre, soit intellectuellement, soit socialement, soit même politiquement, de lutter contre la violence, eh bien, en matière de vrais propos, de stratégie ou même de projet de lutte contre la violence, nous sommes dans une situation assez pauvre. Et toute la question, elle est celle-ci, pour les Français de confession musulmane, c'est de dire, mais qu'est-ce que nous apportons, nous, comme discours sur la violence ? Le fait de dire et de poser simplement comme principe que nous sommes contre, peut être effectivement une chose qui est intéressante, qui est entendue. Nous avons un discours éthique, moral, d'opposition à la violence. Mais qu'est-ce que nous apportons comme véritable contribution sur l'enrichissement du débat dans cette société-là ? Parce que ce qui nous intéresse aujourd'hui, ce n'est pas simplement de constater avec ceux qui constatent, de parler avec ceux qui parlent, de déplorer avec ceux qui déplorent, mais c'est aussi, comme membres, citoyens de cette société-là, d'apporter un certain nombre de contributions, et à deux niveaux. À deux niveaux. Au niveau du discours sur la violence, mais aussi au niveau des stratégies contre les dérives violentes d'une société. Et nous parlerons aujourd'hui, bien sûr, de la société qui vous concerne au premier chef, la société française. Donc il faut que nous ayons deux choses. Un vrai discours, qu'est-ce que c'est pour nous ce problème ? D'où il vient ? Comment est-ce que nous on l'interprète avec nos références ? Ça peut être à partir de nos références, mais ça peut être aussi à partir d'études, qui sont des études objectives sur des situations sociales. Et puis, quelles contributions concrètes nous amenons sur le terrain pour lutter contre cela ? Alors permettez-moi de structurer cet exposé en deux parties. Autant, bien entendu, il faut se référer à des études psychologiques, à des études sociologiques, à des études d'analyse des dynamiques sociales pour pouvoir comprendre le phénomène de la violence, et ça c'est évident qu'il faut se référer à cela, autant aussi nous avons une certaine conception de l'homme. Et nous avons une certaine conception de ce qu'il faut à un homme dans nos références à nous pour que quelqu'un puisse être équilibré. En disant, mais qu'est-ce qui peut provoquer dans notre perception la dérive violente ? Et là, quelle est notre contribution ? Regardez aujourd'hui ce que nous proposons. Excusez-moi l'expression, mais ce que nous proposons en matière de réflexion fondamentale est proche du zéro. Proposons rien comme réflexion. Nous sommes, et nous devons nous considérer intellectuellement, mais aussi religieusement, comme une richesse, et culturellement comme une richesse, on doit apporter une réflexion par rapport à ce débat. Qu'est-ce que nous apportons? Rien, on déplore, c'est tout. Et puis, on peut parfois alors avoir des considérations extrêmement primaires. Vous en parlez avec un certain nombre de musulmans, de toute façon, la violence c'est normal. Regarde cette société. Cette société-là, elle a oublié toutes les valeurs morales. Il n'y a plus de religion, il n'y a plus rien, donc c'est normal. Elle n'a qu'est-ce qu'elle mérite. La société occidentale étant une société décadente, elle a la violence. Voilà ce qu'il fallait démontrer. Et puis on s'arrête là. Propos absolument superficiels, qui ne correspondent pas à une analyse, et puis qui ne répondent pas aussi à des sociétés majoritairement musulmanes qui connaissent aussi la violence. Et qui connaissent aussi des violences et des dérives graves chez les jeunes. Propos simplistes. Et d'un autre côté, on a un autre simplisme. L'autre simplisme, il est à l'autre extrême. Ce sont des gens qui disent, mais écoutez, observons la société française, qui sont aujourd'hui ceux qui produisent le plus de violence en France. Quels sont aujourd'hui ceux qui posent le plus de problèmes dans les banlieues? Eh bien, c'est simple. C'est QFD, ce qu'il fallait démontrer. Les jeunes d'origine arabe. Donc, c'est les Arabes, quoi. Les chiffres parlent pour nous, puisque ne représentant que moins de 10% de la société française, ils forment 25% de la population carcérale. Et puis quand vous lisez le journal, qui a volé la voiture? Ben c'est Ahmad. Et qui y a mis le feu? Ben c'est Mohamed. Et puis qui a cassé ça? Ben c'est Abdallah. Et ben voilà, c'est eux. Alors d'un côté, des musulmans entre eux, ben c'est cette société-là. Décadente. Il n'y a plus de morale, il n'y a plus rien. Et de l'autre côté, ben c'est les Arabes. Et puis accessoirement, ils sont musulmans. Même s'ils sont français. Parce que certains, t'as beau être français, t'es encore arabe quand t'es français. T'es un arabe un peu français. Mais un peu seul. Et ces considérations sont d'un superficiel incroyable. Et nous, là-dedans, entre deux propos ridicules, simplistes, qu'est-ce qu'on apporte? Quelle est notre réflexion? Qu'est-ce qu'on apporte sur notre conception de l'homme? Et sur quel type d'intervention nous pensons être utile? Parce qu'il faut développer un rapport beaucoup plus profond à la question de la violence. Parce que certains aussi aimeraient nous enfermer dans « c'est juste une question structurelle ». Oui, ce qu'on a entendu pendant des années. Tu veux arrêter la violence dans un quartier, on l'entendait aussi sur les minguettes. Nous, on entendait beaucoup parler des minguettes dans notre Suisse, là-bas. Ça faisait, c'était une belle réputation que vous aviez. On dit, ben, il n'y a qu'une seule chose, il faut réparer les ascenseurs. Tu répares les ascenseurs, il n'y aura plus de voitures brûlées. Je vous promets qu'on nous a tenu ce discours-là à des associations alternatives en nous disant, c'est une question de cadre seulement. Alors, loin de nous l'idée de nier que le cadre est essentiel. Mais est-ce que c'est que ça? Est-ce que c'est que ce problème? Question fondamentale. Donc apportons une petite contribution à une réflexion de fond. Et nous, pour nous, revenons à la conception de l'homme sur deux dimensions. Il y a une chose qui est très très importante et qui est essentielle à notre conception de l'homme. Après, on peut y mettre ce que l'on veut comme aspiration. Mais en tant que musulman, il y a des choses qui sont essentielles. La première des choses, c'est que ce que nous transmet notre tradition, c'est une certaine vision de la dimension intérieure de l'être, de nous. Allah subhanahu wa ta'ala, dès l'origine, nous dit une chose. On le sait, on l'a souvent répété, il y a dans le cœur de chaque être une aspiration originelle vers lui. Une dimension que nous, on considère comme musulmans, al-fitra, c'est une aspiration vers Dieu. D'autres vont dire, c'est une aspiration vers le transcendant. D'autres vont dire, c'est une aspiration morale. Nous, en tant que musulmans, elle nous dit ça. Elle nous dit, on est naturellement orienté comme ceci à rechercher quelque chose de transcendant, tout être. Avec une conséquence de la fitra, qu'est-ce que c'est? Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, dans le surat al-Hujurat, une chose très très importante. وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانِ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ. Il nous dit ceci, mais Dieu, il a fait que vous aimiez cette foi vers lui et qu'il l'a embellie dans votre cœur. Alors qu'est-ce qu'on aime? Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Que Allah subhanahu wa ta'ala dit, chez tous les êtres, originellement, il y a une aspiration spirituelle et il y a quelque chose qu'on aime dans cette aspiration. Alors pour nous, les conséquences de ce que l'on aime, c'est quoi? Eh bien, c'est une dimension qui est importante. Ça va être une dimension morale, éthique. En fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, fondamentalement, que nous aimons les conséquences de cette aspiration. Et cette conséquence, c'est quoi? Quand tu as la possibilité en face de quelqu'un de dire un mensonge, puis que tu dis la vérité, à l'intérieur, tu as une paix comme ceci, tu as quelque chose que tu aimes bien. Tu aimes bien dire la vérité. Tu te sens mieux, ton cœur à l'intérieur, il est apaisé quand tu dis la vérité, quand tu fais un acte de bien. Alors, ce temps-là, il nous dit, chez tous les êtres, ça, c'est quelque chose de naturel. Nous, on met, au départ, on met Allah, on met Dieu. Et puis, chez chaque être, il y a ça. D'autres vont dire d'autres considérations. Mais en tout cas, il y a une chose que personne ne peut nier. C'est que dire la vérité, faire le bien, c'est quelque chose que finalement, tous les cœurs aiment bien. Même Jean-Paul Sartre, qui nie Dieu, mais franchement, il dit, l'homme est poussé à chercher à faire le bien. Et nous, on est d'accord. Mais nous, c'est notre conception fondamentalement. Il a fait en sorte que notre cœur soit attiré par ça. Puis il y a une chose que, quand je le dis à n'importe, dans n'importe quel public, je raconte cette histoire de cet homme qui vient vers le prophète, et puis il lui pose la question de qu'est-ce que c'est que le péché. Et il lui dit, c'est ce qui est dans ton cœur et qui l'agite et que tu n'aimerais pas que les gens sachent. Ça t'agite et que tu n'aimerais pas que les gens sachent. C'est-à-dire que c'est un phénomène d'agitation du cœur. Tu n'as pas la paix quand tu mens. Tu n'as pas la paix quand tu trompes. Tu n'as pas la paix quand tu voles. Par contre, tu aimes cette dimension de transparence avec n'importe qui. Chacun d'entre nous l'a connu avec son papa. Chacun d'entre nous l'a connu avec sa maman. Chacun d'entre nous l'a connu dans toute situation. On aime la transparence et la vérité. Alors, ce moment-là, il nous dit, dans les cœurs de chaque être, il y a ça, une dimension de bien-être, d'éthique. Il y a une dimension du cœur qui fait ton équilibre. Mais il nous dit en même temps, t'es pas que ça. Il y a aussi à l'intérieur de chaque être quelque chose qui est une tentation au contraire. La tentation du contraire, c'est exactement ce qui est dit dans Surat Yusuf, alayhi salam. Inna nafsa la ammaratum bissou. L'être commande parfois à faire le mal. Ça te pousse à la tentation du mal. Donc, ton cœur aime la vérité et pourtant ton être te pousse parfois à mentir. Tu sais que tu seras en paix dans la vérité et pourtant tu fais le mal. Et tu es entre ces deux-là, à la recherche de la paix du cœur, mais dans la tentation permanente de pouvoir faire le mal. Mais ce n'est pas seulement toi. Même Allah, ce moment-là, il a mis dans le monde des choses qui t'attirent pour aller vers ces tentations-là. Zayyana lin-nas hubb ash-shahawat min an-nisaa'i wal-banin wal-qanatir al-muqantara. Allah SWT a été embelli pour les gens tout ce qui est de la dimension des plaisirs, de la sexualité, même de tout ce qui est aussi la possession de ses propres enfants et des grandes richesses. Le monde t'attire, ton être est attiré par le monde. Et tu es entre ces deux-là. Cette dimension que le cœur aime ce qui est bien, aime la dimension affective, sentimentale est très très importante pour ton équilibre, parce que ton cœur trouve la paix là-dedans, et en même temps tu as un être qui est attiré. Et tu es dans une sorte de crispation naturelle, de violence possible. Parce que vers quoi tu es naturellement attiré? Eh bien, il y a plein de choses qui peuvent t'attirer effectivement. La richesse, le goût du pouvoir, mais ce n'est pas tout aussi. Il y a des choses qui sont naturelles en toi et qui te poussent au mal. Quoi? La colère, c'est naturel. Tu as des violences naturelles. Regarde un enfant comme il réagit. Va vers un enfant, puis tu lui prends sa voiture, tu lui dis ça, c'est à moi. Il ne va pas te dire, non, s'il te plaît, tu me la rends. Il te la prend des mains, il te dit c'est à moi, et si tu continues, il te tape. Il a naturellement cette dimension de la possession aussi. Et pourtant, à des moments donnés, il aime faire plaisir. Eh bien, il aime faire plaisir en donnant. Il a aussi ceci, et nous tous, nous avons cela. Et alors, quand Allah, il nous dit, tu as des dimensions naturelles comme ça qui ont besoin de limites. Il y a besoin de limite à ta tentation parce que sinon tu vas vers le mal. Tu vas vers le mal avec la colère. Limiter ta colère. Tu vas vers le mal par ton amour de l'argent. Limiter ton amour des possessions. Tu vas vers le mal par l'amour du pouvoir. Limiter ceci. Il faut des règles. Et alors, Saint Allah nous dit une chose dans la conception des hommes. Pour limiter les excès des êtres humains, il faut des règles. Mais pour qu'ils comprennent bien les limites ces règles, il faut du cœur. Il faut de la dimension intérieure. Plus la dimension intérieure elle est approfondie, plus tu comprends les limites. Et je vous donne un exemple qu'on a tous connu. Très simple. Il y a quelques années de cela, quand vous étiez jeune, ou même encore maintenant pour certains d'entre vous qui sont au lycée ou qui commencent l'université, tu te retrouves en face d'un professeur de mathématiques. Oui. Il te donne des devoirs à faire. Des devoirs, c'est des limites à ta vie, quoi. Il te dit, tu dois faire ça. Ce professeur-là, tu ne l'aimes pas. Il t'énerve. Il y a quelque chose, ça ne passe pas. Chaque devoir qu'il te donne est un poids. Chaque fois, ça te pèse. Il y a ça à faire. Tout ce qu'il te dit d'abord. Même s'il te dit, ferme la porte, s'il te plaît, ça t'énerve. Tellement tu ne supportes pas. Tu ne l'aimes pas. Il y a ton cœur ne réagit pas à lui. Toutes les limites qu'il te donne deviennent des entraves. C'est une violence qu'il te fait. Une violence et affective et une violence autoritaire. Il est violent par rapport à ta liberté parce qu'il ne touche pas ton cœur par sa façon. L'année d'après, tu tombes sur un professeur et un inchallah. Lui, alors c'est le top, ça passe bien. Tu l'aimes bien. Lui, il te dit ferme la porte, tu te lèves deux fois pour fermer la porte. Il te donne le double du travail, tu le fais, tu ne te rends pas compte. Il réussit par le lien affectif à faire que l'autorité de la limite soit allégée par la dimension de l'affection qu'il te porte ou que tu lui portes. Avec la même matière, les mêmes limites. Et ce que nous enseigne l'islam, c'est exactement ça. On a besoin de limites par rapport aux excès, mais on a besoin de cœur pour comprendre les limites. L'éducation, elle a besoin des deux. Parce que des limites sans cœur, c'est des violences à la liberté. Mais un cœur sans limite, c'est tous les excès possibles. Parce que vous en avez qui sont comme ça. Il y en a certains, ils mettent des limites. Dans nos familles, la seule chose que l'enfant entend, c'est « tu peux pas, tu peux pas, tu peux pas ». D'accord ? La dimension du cœur, ça c'est accessoire. Le plus important, c'est que tu puisses pas. Eh bien, la limite, elle est une violence à la liberté. Et à un moment donné, tu continues comme ça. Le jeune, à un moment donné, il a tellement l'impression qu'on l'étouffe qu'il fait tout sauter. L'ordre de la famille et toutes les limites. Parce qu'il n'y a rien qui lui fait comprendre le sens de ses limites. Puis il y en a d'autres, ils veulent être gentils. Là, il n'y a pas de limite. Tous discutent. Tu fais ce que tu veux. Et là, au nom d'un amour qui veut s'exprimer sans les limites, eh bien, on donne des jeunes qui n'ont plus de repères. Eh bien, notre conception de l'homme, elle est fondamentale. Ce que je suis en train de vous dire, c'est très très important parce que c'est une contribution forte aussi, très profonde, en amont du seul problème de la violence. Parce que c'est en comprenant ça, nous, qu'on intervient sur le champ social. C'est pas simplement par du bricolage. C'est en comprenant bien. Tu veux lutter contre la violence. La violence des règles, comme la violence de ne pas en avoir, eh bien, il faut travailler sur les deux jambes, que ce sont les deux dimensions de l'être humain, sur ces deux jambes-là. Un cœur et des limites. Et un cœur pour comprendre les limites et des limites pour orienter les aspirations du cœur. C'est la conception fondamentale parce que nous avons les deux. Eh bien, aujourd'hui, un de ceux qui, en France d'ailleurs, intervient le plus souvent et qui est psychiatre de formation, vous savez ce qu'il dit après tant et tant d'études sur l'adolescence et les jeunes? Écoutez bien, et vous allez voir combien là on peut se rencontrer, là on peut apporter notre contribution à se rencontrer. Les adolescents ont besoin de deux choses, l'amour et la loi. Il dit l'amour et la loi, et nous sommes d'accord. Il a raison, l'amour et la loi. Et il va même jusqu'à dire... À un moment donné, il arrive que certains, tu lui dis, si tu continues à faire ce que tu fais, tu deviens trop difficile à aimer. Et il dit, c'est une dimension du rapport aussi que les parents peuvent avoir et doivent avoir avec leurs enfants. Eh bien, Boris Cyrulnik, pour le citer, intervient aujourd'hui sur énormément de domaines pour mettre en évidence cet équilibre, et on retrouve ici des dimensions qui sont très importantes pour nous. Deuxième élément, avant d'entrer justement dans ce qu'il y a, donc, vous avez bien compris, cette dimension de trouver l'équilibre pour lutter contre les violences, c'est commencer à partir pour nous de l'intérieur. La violence qui ne serait qu'une lutte structurelle ne répondra pas à la violence qu'on peut vivre à l'intérieur. Et la source de la violence, elle est souvent issue chez les jeunes de l'intérieur. Et qu'elle s'exprime de cette façon-là, dans l'agression par rapport aux limites, dans l'agression par rapport aux règles sociales. Alors, à ce moment-là, il nous dit une autre chose encore. Il y a cette violence qui peut venir de l'intérieur, et il dit qu'il y a une autre violence potentielle. Cette violence potentielle, elle vient de la diversité. Elle vient de la diversité dans un verset que, lorsque vous le lisez comme ceci la première fois, il vous interpelle. Il vous interpelle parce que c'est presque le contraire de ce que vous aimeriez naturellement. Et pourtant, vous allez voir quel enseignement il y a là-dedans. Alors, Allah Ta'ala nous dit ceci. « وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضِ » Si Dieu n'avait pas mis les êtres humains en confrontation les uns contre les autres, la terre se serait pervertie. Il nous dit une chose tout à fait particulière. En fait, ce qui permet à la terre de ne pas se pervertir dans un désordre général, c'est le fait qu'il y a entre les hommes des confrontations. Le fait que les hommes soient les uns contre les autres a fait qu'il n'y ait pas un peuple, une seule communauté, un seul pouvoir qui prenne le dessus et qui, par sa seule puissance, parce que l'homme, quand il n'a pas d'adversité des autres êtres humains, il a une formidable envie d'expansion et d'abattre son pouvoir sur tout le monde. Eh bien, ce qui, à première vue, vous gêne, c'est ce qui vous sauve, nous dit Dieu. Alors, ce moment-là, il nous dit ça. Ce qui, à première vue, vous gêne, c'est-à-dire la confrontation possible entre les êtres humains, c'est ce qui fait l'équilibre. Vous avez besoin d'équilibre à l'intérieur entre l'amour et la loi, entre les hommes, entre la diversité des êtres humains, parce que si un côté prend le plus, la terre se pervertit. Et cette diversité est un défi. Tu peux verser dans la violence ou construire vers l'excellence. Ça dépend de ce que tu as dans le cœur. Et regardez ce qu'ils nous disent dans un autre hadith. Voilà où cher en mort, où la ja'alakum ummatan wahada. ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات. Si Dieu l'avait voulu, il aurait fait de vous une seule communauté. Mais c'est pour vous mettre à l'épreuve en ce qu'il vous a donné. Mettre à l'épreuve ليبلوكم. Il vous a mis à l'épreuve dans ce qu'il vous a donné. فاستبقوا الخيرات. Rivaliser de bonté. En d'autres termes, la diversité l'a été voulue parce que sans diversité, ça aurait été la perversion. Votre diversité est un défi. Et ce défi, vous devez le vivre comme une épreuve. Et l'épreuve pour vous orienter vers le bien, non pas pour verser dans le conflit vers le mal. Rivaliser de bonté. Allah Subhanahu wa Ta'ala nous dit, à l'intérieur, tu as deux dimensions qui sont en conflit, tu dois trouver l'harmonie. À l'extérieur, tu as des êtres humains avec lesquels tu dois être en conflit, tu dois les dépasser vers le bien. En d'autres termes, tu n'as jamais absolument acquis un état, et c'est parce que tu as dans le cœur que tu dépasses toute tentation violente. C'est par travail intérieur et compréhension de la rivalité comme un défi pour le bien que tu comprends cela. En ce moment-là, nous dit donc deux choses. Compréhension fondamentale. De toi à toi, tu as besoin de ces deux dimensions, le cœur et la loi. Et de toi aux autres, tu as besoin, de la même façon, de la compréhension de l'épreuve, de beaucoup de cœur et de rivalité dans le bien. La rivalité, la compétition, c'est naturel. Vouloir un monde où il y aurait la paix absolue, tu rêves. Vouloir un monde où il n'y aurait pas de conflit, tu rêves. La réalité, elle est dans le conflit. Mais toi, tu dois le transformer par un supplément de cœur en défi pour le bien. Et les autres sont comme ça. Donc, en d'autres termes, c'est une compétition que tu peux vivre, soit dans la violence, soit dans le bien. Une fois qu'on a compris ceci, cette armée, en fait, de tout ce que je viens de vous dire, de notre conception en tant que musulmans, Allah subhanahu wa ta'ala, on dit, c'est une conception des hommes, de l'homme, et qu'on va trouver chez des psychologues, chez des psychiatres, chez des sociologues, d'une certaine façon. Et nous, c'est notre contribution. Qu'est-ce qu'on est en train de dire? On est en train de dire qu'une société qui ne s'occuperait que de l'intimité sans s'occuper des lois va provoquer de la violence. Une société qui ne s'occupe que des lois, mais qui ne s'occupe pas du cœur, va provoquer la violence. Une société qui ne fait pas face aux conflits et qui ne les oriente pas vers un défi pour le bien, va provoquer de la violence. Et que nous avons à travailler sur ces trois dimensions, à l'intérieur, mais également dans l'éducation à maîtriser les deux, et à l'extérieur. Et voilà les trois domaines sur lesquels nous avons à apporter notre contribution. Alors, deuxième partie de cet exposé, comment avons-nous à travailler, nous, ici, en France, pour apporter, à partir de cette conception de l'homme, des idées, des contributions efficaces à lutter contre la violence? Eh bien, j'aimerais vous proposer rapidement trois domaines qui répondent exactement aux trois secteurs sur lesquels j'ai insisté dans la conception islamique de ce problème-là, ou islamique de l'homme plutôt. Premier élément, la dimension de l'intimité, de l'intérieur. Deuxième élément, la dimension de l'école, de l'instruction, de l'éducation. Et troisième élément, la question de l'environnement social. Alors, par rapport à l'être intérieur, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que ce qu'il faut, et en particulier pour les jeunes issus de l'immigration, soit français ou pas, un être humain qui n'a pas confiance en lui est un être humain qui peut avoir une charge de violence extrêmement forte. Et que ce que nous avons à faire au niveau de l'intimité de beaucoup de ces jeunes dans la société française, c'est de leur redonner confiance en eux, de retravailler une confiance intérieure. Vous savez ce qu'on a dit tout à l'heure, la paix du cœur, et de faire comprendre à beaucoup de nos interlocuteurs en France que l'intégration apparente, si elle est fondée sur une désintégration intime, c'est une bombe à retardement. Ça peut paraître gagné aujourd'hui, demain ça va exploser. Et c'est pas parce que des jeunes portent Nike ou Lacoste ou autre, et qu'apparemment ils ont un look d'ici, qu'ils vivent bien avec leur cœur ici. Et que ce travail-là, il est nécessaire. Alors comment restituer, faire en sorte que des jeunes se réapproprient une confiance? Eh bien, ça passe par une dimension qui est très importante. Elle est fondamentale, elle est très simple. Modifier le regard que l'on a sur soi. Le regard que j'ai sur moi-même, il doit être changé. Et pour, si on se concentre ici simplement sur les jeunes de deuxième ou troisième génération issus de l'immigration, comment est-ce qu'on va faire pour changer aussi leur regard qu'ils portent sur eux-mêmes? Eh bien, il y a trois dimensions sur lesquelles il faut travailler pour changer le regard sur soi. La première de ces dimensions, elle est capitale. Et là, excusez-moi, mais les associations étiquetées islamiques aujourd'hui sont loin du compte, ne font pas leur travail sur ce plan-là. On est en train aujourd'hui d'apporter à des jeunes des éléments de faire des éléments de rapport au Coran, des éléments de rapport au Hadith, mais le vrai travail aussi, parce que quand tu amènes des règles et puis que tu n'as pas considéré l'intériorité, le cœur, les règles, elles peuvent te donner l'impression que tu réponds, mais tu réponds en apparence, tu ne réponds pas dans le fond. En fait, la première des dimensions avec lesquelles tu peux faire en sorte que quelqu'un change son regard sur lui-même, c'est qu'il faut faire en sorte qu'il se réapproprie son histoire. Il faut aujourd'hui, et pour beaucoup des jeunes qui sont en train de tout casser dans certaines banlieues aujourd'hui en France, d'ailleurs en Angleterre et dans beaucoup de pays d'Europe, se réapproprier son histoire, revaloriser l'histoire de ces jeunes. Et revaloriser l'histoire, ça veut dire quoi? Ça veut dire t'es effectivement d'origine tunisienne, t'es d'origine marocaine. Si t'es français aujourd'hui, c'est une chose, mais t'es d'origine algérienne, t'es d'origine de cette Afrique et de cette Afrique du Nord. Et cette histoire-là, elle est noble. T'es d'origine de cette Afrique et de cette Afrique du Nord. Et cette histoire-là, elle est noble. L'histoire de ton pays d'origine, c'est une grande histoire. L'Algérie, c'est un grand pays. L'histoire de l'Algérie, c'est une grande histoire. Et même tout ce qu'en disent les manuels scolaires, s'ils déprécient cela, eh bien, nous, on ne doit pas le déprécier. Tu viens d'une grande tradition, quelle qu'elle soit, et qu'elle n'est pas européenne, tunisienne, algérienne, turque, marocaine. Ton histoire, elle est grande. Mais pour ceci, il faut effectivement tenir un discours qui soit un discours de revalorisation de cette mémoire longue, de là où tu viens, de cette histoire de ces pays-là aussi. La seule histoire du pays dans lequel tu es et qu'il faut connaître, l'histoire de France, n'est pas la seule histoire du monde. Et qu'il faut revaloriser cette histoire-là profonde. Revaloriser parce que c'est aussi dans cette revalorisation, mais très longue, très profonde dans l'histoire, se réapproprier cette mémoire longue, cette mémoire du pays d'origine, connaître la richesse de ces pays-là. Pas de façon exotique, comme aujourd'hui on est en train de le faire sur le plan culturel. Oui, exotique, c'est le couscous, la musique orientale. Ça, c'est pas de la réappropriation. Ça, c'est de l'instrumentalisation. C'est un plat pour oublier une histoire. Et nous, on veut se réapproprier une histoire dans laquelle on remettra un plat. Mais une vraie histoire de ces pays d'origine-là. Et ça, on ne peut pas y couper. Si tu es coupé de ta mémoire longue, d'une certaine façon, ton regard sur toi, il est déprécié. Et c'est un parcours par lequel, moi-même, personnellement, j'ai dû passer avec votre histoire longue. On vous coupe de cette histoire-là. Et nous, très souvent, on entre dans ce même défaut. La deuxième des choses pour regarder, et là aussi, ça voudra dire effectivement travailler, on y viendra tout à l'heure dans le domaine de l'éducation. L'autre élément, c'est de travailler sur l'image des parents. Revaloriser ce que furent les parents et ce qu'ils ont vécu. Parce que beaucoup des jeunes, ils ont l'impression que leurs parents, ils se sont fait, entre guillemets, avoir par cette société-là. Ils les ont vus humiliés, ils les ont vus travailler dans des usines, ils les ont vus maltraités. Et jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce qu'on dit de ceux qui ont fait la France? Parce que les immigrés qui sont venus dans ce pays travailler, après la Deuxième Guerre mondiale, ils l'ont fait ce pays. Et ceux qui ont participé aux guerres sous l'étendard français, ils ont fait ce pays. Mais aujourd'hui, tout ça participe de l'amnésie collective. C'est comme si ça ne participait pas de l'histoire de ce pays. Et l'arabe, le musulman, médiatiquement, dans les grands médias, et socialement, il est déprécié. C'est effectivement une dimension qui est totalement oubliée. Et là, nous avons, mais non pas simplement nous, toute la société française. Et ça, pour nous, il faut le dire aussi, il faut que nous participions, non pas simplement, encore une fois, ne me comprenez pas comme le discours, ne comprenez pas cela comme le discours de musulmans adressé aux musulmans. C'est notre contribution aussi à cette société-là. Vous voulez demain, avec nous tous, que cette société-là, elle dépasse la violence? Il faut revaloriser l'histoire de ceux qui composent, les mémoires collectives de ce pays. La mémoire de France aujourd'hui, ça n'est pas simplement la mémoire d'une république, c'est la mémoire de tous ceux qui composent ce pays-là, de tous les citoyens, et ceux qui sont d'origine algérienne, ceux qui sont d'origine marocaine, ceux qui sont d'origine turque, ceux qui sont d'origine tunisienne, ils ont participé, et ils sont de ce pays-là. Il faut valoriser ces mémoires, comme il faut valoriser l'apport de tous les parents. Et quand aujourd'hui, vous observez qu'est-ce qu'un jeune vous parfois même, mais vous aussi de la même façon, l'image que l'on a de l'arabe, l'image que l'on a du musulman est très très négative. Et il n'y a pas du tout de valorisation de l'exil. Mais il faut enseigner aux gens dans ce pays que l'exil est un acte d'une richesse incroyable, très difficile humainement, mais d'une richesse somptueuse. Un arrachement à ses terres pour pouvoir venir travailler, c'est un acte de grand courage humain. L'exil est une chose à valoriser. Le fait d'avoir participé aussi à la construction de ce pays, à tous les niveaux. On n'a pas participé à l'édification de la France quand on s'est simplement appelé Jean Jaurès. Mais quand on a été dans les usines, quand on a fait ce qu'il fallait faire pour reconstruire ce pays, la mémoire des parents, l'apport fantastique que ces parents, ce qu'ils ont apporté comme richesse à ce pays-là. Mais tant qu'on ne valorise pas cet apport-là, tant que les parents et que l'image de l'islam ou de l'arabe consiste et continue à être dépréciée de cette façon-là, si tu es dans une banlieue, tu n'as pas de travail, la seule chose qui te... Et puis que tu es déconsidéré de cette façon-là, eh bien tu as deux choses. Ton identité devient un complexe. Et dans le complexe, tu tapes. Dans le complexe, tu transgresses les limites par la force des choses, s'il n'y a pas de valorisation. Et cette dimension, elle est capitale. Le se réapproprier sa mémoire et retransformer le regard que l'on a sur ses propres parents et l'apport que ce pays et que la mémoire de ce pays reconnaissent l'apport de tous ceux qui, modestement ou intellectuellement, ont permis à ce pays de se construire. Ça voudra dire qu'il faudra travailler aussi sur l'éducation, on y revient. Troisième élément, eh bien, il découle de celui-ci, j'insiste pas tellement, c'est simplement le travail sur le regard sur soi, la valorisation que l'on a de soi. C'est effectivement un travail systématique sur le fait de la représentation qu'on a de ces citoyens d'origine immigrée, de dire que ça suffit, que c'est pas possible, qu'il doit y avoir un mot d'ordre clair de ces autorités politiques. Un policier, quand il rencontre un Français d'origine maghrébine, il ne le tutoie pas parce qu'il est maghrébin. Le respect de ce que sont ces jeunes aussi et de ces bavures à répétition qui sont effectivement dommageables, au point que, vous savez qu'ici, là, dans votre région, à Lyon, on apprend que dans des prisons, on réussit. Dans des prisons, alors on nous fait un grand discours sur « il ne faut pas de communautarisme, il faut qu'on se mélange, on est d'accord ?» Tu vas dans la prison où ce sont des gens qui, effectivement, c'est là où tu dois construire une personnalité. Qu'est-ce que tu as dans la prison ? Un secteur pour les Français et un secteur pour les Arabes. Ah, mais ça, c'est bien comme projet social. Dans la prison, les mêmes fautes, tu as un secteur, il n'y a que des Arabes. Pourquoi ? Parce qu'ils ont envie d'être ensemble. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que cette société qui met ceux qui ont transgressé pour des situations difficiles et qui les sépare dans une discrimination de ce type-là? Alors on nous dit, oui, non, mais ils ont le même traitement. Oui, mais c'est le même traitement séparé. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que l'on est en train de faire? Qu'est-ce que l'on est en train de construire? Et ça se passe à Lyon en l'an 2000. Et ça, c'est un travail. Et puis, je ne suis pas sûr. Déjà simplement en disant on met les Arabes ensemble, la façon d'en parler montre qu'il y a quelque chose qui n'est pas réglé dans les têtes. La façon d'en parler, ils sont français ou ils sont complètement et toujours arabes pour toi? Parce que pour certains, l'origine dit quelque chose sur la réalité de la nationalité. Ils ne sont pas tout à fait français. Eh bien, ça aussi, ce travail sur la transformation du regard est une nécessité. Mais encore une fois, ce n'est pas nous, entre nous, qu'allons faire ce travail-là. C'est un projet social. Nous devons apporter avec notre richesse cette idée de dire « Vous voulez lutter contre la violence dans cette société-là ? Commencez par donner la possibilité d'avoir des cœurs plus en harmonie avec eux-mêmes. Donnez confiance aux gens. Donnez leur confiance en eux. Et pour qu'ils aient confiance en eux, il faut changer le regard qu'ils portent sur eux-mêmes. C'est un travail intérieur. Et ce travail intérieur, valorisez les mémoires. Valoriser les parents, valoriser l'image de soi. Parce que sinon, c'est pas possible. Sinon, c'est du bricolage. Si tu me mets les meilleurs immeubles du monde et que j'ai le cœur le plus déchiré qui soit, en 2 semaines, tes beaux immeubles, ils redeviennent ce qu'ils ont pu être, démolis et cassés. Ça sert à rien l'environnement s'il n'y a pas un travail sur l'intérieur. Et de ce point de vue-là, il y a un vrai travail à faire pour parvenir à la confiance en soi. Deuxième élément, l'école. Alors on peut continuer, chers frères et sœurs, à dire en l'an 2070, il y aura la première école islamique. Alors là, ça va être le top. On peut continuer à tenir ce discours d'illusion et qui ne touchera qu'une partie en plus. Nous n'avons pas de solution pour l'école à l'heure actuelle. Aujourd'hui, 100% ou 97% des enfants, ils sont dans les écoles, qui sont des écoles, qui sont soit parfois des écoles privées ou soit des écoles tout simplement publiques. Eh bien aujourd'hui, dans cette école-là, il y a un vrai travail à faire de sociabilité. Si l'on veut effectivement lutter contre la violence et les séparations discriminatoires, si l'on veut lutter aussi contre ceci, l'école n'est pas simplement un lieu de transmission de savoir, l'école devient, à cause de la nouvelle géographie de ces populations, eh bien un lieu de sociabilité, et il faut que ça le devienne. Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? De plus en plus, des secteurs de la société qui mettent les pauvres entre eux, les riches entre eux. Et puis dans les pauvres, qu'est-ce qu'il y a? Comme à Nice, comme à Lyon, comme à Paris, comme dans le nord de la France, eh bien quoi? 80% de Français ou de jeunes d'origine immigrée qui sont ensemble, 20% là, ou quelques-uns qui sont perdus en plein milieu de tous ces noms d'arabes. Et on aimerait que l'école soit un lieu de sociabilisation. C'est pas possible. Si l'on ne fait pas un travail en amont sur la réalité d'une école social, eh bien, ça sert à rien de nous dire après coup, eh bien, on compte les coups après qu'on n'ait pas fait le nécessaire pour les éviter. Et là, il y a un vrai travail de sociabilisation dans l'école. Mais il faut y être présent aussi à l'école pour cela. Et alors là, se pose la grande question. Dans ces milieux, dans cette école-là, il faut que les parents, ils y soient. C'est un lieu de sociabilisation pour les élèves, mais ce doit être un lieu de sociabilisation et de discussion pour les parents. Et de quoi se rend-on compte? Où sont les parents musulmans, français de confession musulmane, qui participent vraiment au débat sur l'école dans cette société-là? Où ils sont dans les rencontres des parents d'élèves? Rien, pas là. Dans les discussions avec les directions, dans les discussions avec les instituteurs, pas là. La seule chose qui nous intéresse, c'est qu'on ne vient que quand il y a une erreur. Pour le foulard d'une erreur, on y est, on va respecter. Mais on est là pour construire ou pour comptabiliser les erreurs d'une société? À un moment donné, il faut être là avec discuter avec les gens et apporter le concours de nos vues. Ça s'appelle comme ça, apporter le concours de nos vues pour essayer de dire à l'école qu'est-ce qu'on en veut. Il faut être dans les conseils des parents. Il faut être présent à l'école. Il faut apporter un discours aussi sur cette école-là. Absent. Et après, on récolte les fruits de jeunes qui ne vivent pas la sociabilisation, qui ne vivent pas la sociabilité et qui ont des parents qui sont totalement déconnectés de la réalité de l'école. La seule chose qui les intéresse à l'école et le seul moment où ils interviennent, c'est quand il y a eu rupture ou dysfonctionnement. Ça ne va pas. Quand il y a rupture et dysfonctionnement, c'est déjà trop tard. Il faut y être, il faut être présent. En espérant que vous, maintenant, qui arrivez maintenant, et certains d'entre vous commencent à avoir des enfants, sont jeunes et commencent à avoir des enfants, il faut être présent dans le lieu où l'on parle de l'école, et non pas pour dire, nous, on attend notre école islamique, elle nous mettra entre nous, on n'a pas ceci, ça ne se passera pas comme ça, on n'a pas de solution. Pour l'instant, nos enfants, ils sont dans ces écoles-là, et ils le sont pour des décennies et des décennies. Soyons là, sur ce terrain-là, pour discuter, pour apporter des contributions, pour dire justement, comment est-ce qu'on va valoriser la mémoire? Comment est-ce qu'on valorise l'image des parents? Quand tu as tes propres parents qui vont à l'école, qui vont discuter avec le professeur, pas quand il y a des problèmes, mais qui apportent des idées, qui apportent quelque chose à l'école, mais là, ça valorise pour les enfants aussi l'image des parents. Un énorme travail à faire est aussi celui des programmes scolaires. Je vais vous raconter une histoire. Très rapidement, je finis assez rapidement. Un jeune américain, noir américain, 9 ans de prison, se convertit à l'islam en prison, commence à faire sa formation, il sort, et puis il se trouve qu'il s'occupe d'enfants et tout ceci, puis il observe les programmes scolaires aux États-Unis et il voit des choses tout à fait étonnantes. Alors il prend les ouvrages, il est allé voir certaines associations musulmanes, il dit, écoutez, Maintenant, je vais vous demander une contribution financière parce que j'ai un projet. Ce projet-là, c'est de relire, revisiter, de reconsidérer tous les programmes scolaires qui sont faits concernant l'islam dans ce pays. Et il commence dans un petit état, il est allé voir, alors il a retrouvé quelques financements, et des gens ont dit c'est intéressant. Puis un jour, qu'est-ce qu'il fait? Il prend un document, un livre, livre d'histoire, destiné aux jeunes Américains. Et il prend ce livre et il va vers le directeur d'une école, il prend rendez-vous, et puis il lui donne la page, il lui dit, est-ce que vous pouvez lire hein, ce qui est écrit sur l'islam? Et puis, il lui avait mis la croix, il fallait lire, il dit, ce qui est marqué dans ce livre-là, dit, l'islam, une religion qui est née dans la péninsule arabique, la religion des Arabes. Et il l'arrête au moment où il lit ça, il dit, regardez-moi bien, est-ce que vous trouvez que je suis arabe? Un noir, hein? Accent américain très fort. Il dit, je suis arabe. Il dit, vous êtes en train d'enseigner sur la base de livres scolaires qui sont considérés par des enfants comme des références, une chose où moi je suis un noir américain. Et je suis tout aussi américain que vous. Et je suis musulman. Une réalité qui n'est pas vraie. Vos programmes scolaires, ils sont erronés. Et il a commencé à faire un travail d'étude sur tous les programmes scolaires. Et puis, il est là, il est allé les proposer. Certaines écoles ont inséré ce qu'ils... Alors attention, ils ont fait des études, ils ont apporté des références scientifiques. Ils n'ont pas commencé à faire un travail de prosélytisme. Non, ils ont dit, l'islam, c'est ça, ça, ça et ça. Certaines écoles ont inséré ce qu'il a apporté dans leur cursus. Certains autres ont refait un livre à partir d'études qu'il a apportées avec des références scientifiques en présentant l'islam de façon nouvelle. Une façon plus intéressante, plus valorisante. Et lui, il a beaucoup insisté sur quoi? Bien entendu, les États-Unis, sur la mémoire afro-américaine. Les Noirs, parce qu'on a toute la dimension afro-américaine qui participe de ce peuple-là en disant, mais notre mémoire. Nous, on n'est pas que des esclaves, on a fait ce pays. Les États-Unis, c'est nous. Pas commencer à nous dire n'importe quoi. Comme n'importe quel enfant nord-africain peut dire ici, de son papa tunisien, algérien, la France, c'est nous. On l'a construit comme vos parents. C'est pas des vues de l'esprit, c'est la réalité. Et bien là, il dit ceci et il le dit avec force et il amène et fait un travail. Aujourd'hui, dans beaucoup d'États, et un en particulier, les programmes scolaires ont été revus avec une touche concernant la mémoire de ce peuple, concernant la présentation de l'islam. Mais nous aussi, on doit faire ça. Nous aussi, on doit contribuer. Mais il faut y être sur le champ scolaire pour revoir ces programmes scolaires. Très récemment, ici, là, à Lyon, on a eu un débat où une enseignante, une jeune enseignante, elle lève la main et elle dit « Mais le problème, c'est les programmes scolaires. Un jeune qui voit ses programmes scolaires, il n'y a rien qui le valorise. Il n'y a rien qui valorise celui qui est d'origine algérienne. Il n'y a rien qui valorise la langue arabe. » Je veux dire, la seule chose qu'on réussit à faire, c'est qu'un enseignant qui a appris l'arabe, en plein milieu d'un cours, il dit deux mots d'arabe parce qu'il avait des jeunes maghrébins, d'origine maghrébine. C'était un moment de communication, les jeunes étaient contents. Qu'est-ce qu'il a réussi à trouver? Des réprimandes de parents et des menaces de skinhead. Si tu commences à parler l'arabe, tu vas voir ce qui va t'arriver. La langue elle-même, la langue arabe, elle est dévalorisée. L'origine est dévalorisée, la mémoire est dévalorisée. Puis tu veux qu'après, si je suis dans une société où j'ai pas de travail, où je suis exclu de l'école, eh ben je sois calme. Mais je vais tout casser, je vais te montrer que je suis là. Si tu vois pas que je suis là, tu vas voir que je suis là. Je casse. Tu n'as rien construit pour moi. Tu ne reconnais rien de ce qu'ont construit les miens. Et tu aimerais que je reste tranquillement comme ça? Ben je casse. C'est une manifestation de mal-être. Être présent sur le champ scolaire avec un apport positif. Et ça, les associations qui sont sur le terrain, où sont-elles? Qu'est-ce qu'on fait de ce point de vue-là? Presque rien. Des discours. Dernier élément, et c'est là-dessus que j'insiste également, l'encadrement social. Ce qu'on a dit autour de la question de la loi, des lois. Mais on a dit, ces lois ne sont comprises que quand on travaille sur l'intériorité, la confiance en soi. Vous avez compris, à partir de la référence, comment aussi on intervient sur le champ? Eh bien, l'environnement social, il nous impose d'intervenir sur un grand nombre de domaines. Et synthétiquement, en tout cas, trois. Il faut effectivement s'intéresser à ce qui intéresse les jeunes. Ça ne veut pas dire se soumettre à leurs intérêts, mais comprendre qu'est-ce qui peut les intéresser pour façonner une identité et leur faire comprendre la limite ou les limites. La première des dimensions dans l'encadrement social, qui est très très importante, c'est toute la dimension aujourd'hui qui est devenue une expression très importante, c'est la dimension du sport. C'est un formidable vecteur et catalyseur d'énergie par rapport à la violence. Le sport, mais pas le sport... J'ai plutôt plus de sympathie pour une quatrième division qui gagne contre une première division. Plutôt la quatrième division que, oui, d'amateur. Oui, je pense que vous êtes tous comme moi, plutôt Calais que c'était Bordeaux. Non, bref, petite parenthèse fermée. Le sport que l'on propose aux jeunes est effectivement deux jeunes près de Strasbourg. Ils organisent un tournoi de ping-pong, 500 personnes un dimanche, dont deux qui viennent reconnus comme les grands dealers du coin et un autre aussi un grand casseur. Vous savez ce qu'ils viennent faire un dimanche? Jouer au ping-pong. C'est-à-dire qu'on leur propose quelque chose aussi qui soit ce qui nous intéresse, c'est-à-dire trouver des espaces où l'on s'exprime au niveau du sport, comme ce jeune à Montfermeil là, qui a eu des problèmes il y a 2 ans, il a fait une journée de football contre la violence. Et puis il a demandé à des footballeurs, des sportifs, venez, soyez des modèles, des exemples. L'exemplarité dans le sport. Ça, ce sont des choses qui sont importantes à Boston, près de Boston. Tout un village, il n'y a plus de drogue, il n'y a plus rien. Ils leur ont fait des journées de tennis. Ils ont fait, Yannick Noah est allé. Il a dit, viens, montre que tu peux être un modèle pour des jeunes et que tu peux être présent sur ce plan-là. C'est un catalyseur d'énergie. Et dans le sport, il y a toujours des règles. Il y a toujours des règles. Et ça, ces règles, c'est important. Tu peux apprendre les règles en t'amusant. Il y a des façons d'être dans le sport. Comme ceux avec lesquels, une fois, je suis allé jouer à Paris, ils m'ont invité une fois à 10h le dimanche. Il faut faire du sport, et dans le sport, ils disent, tais-toi, tu es en train de faire du foot, tu n'es pas en train d'insulter la République. Tais-toi, il y a des règles. Et ils réussissent de ce point de vue-là à canaliser des énergies. Deuxième dimension, l'expression culturelle. Là aussi, il y a énormément de jeunes qui ont besoin de pouvoir s'exprimer, de pouvoir canaliser une voix. Tout ce que tu dis et que tu dis mal, avoir le goût de pouvoir le dire mieux, ça peut être une expression artistique, ça peut être une expression de chant, ça peut être une expression théâtrale. Eh bien là, on est où? Ce qui se fait, par exemple, dans beaucoup, beaucoup maintenant de cités aussi, avec des gens, tu ne pouvais même pas imaginer qu'ils pouvaient s'exprimer. Moi, j'ai le souvenir d'avoir engagé dans une pièce de théâtre un jeune, il faisait 1m90, une énorme marmoire, il ne fallait pas lui dire un mot, lui, il cassait la chaise. Lui, à un moment donné, en Allemagne, il y a un professeur, il lui a dit un mot de travers, c'est ce qu'elle a fait. Il est sorti, il est allé essayer de mettre le feu à l'école. Lui, tu lui dis un mot de travers, il met le feu à l'école, lui. Et là, on l'avait pris dans un projet de théâtre, il s'exprimait. On lui donnait de la valeur par l'expression. Et ça l'a intéressé. Et l'éducateur qui l'avait suivi m'a dit, jamais j'aurais pu penser qu'il puisse atteindre cette qualité de douceur. Parce qu'il était doux, finalement. C'est son mal-être qui le rendait violent. Troisième des dimensions, une dimension aussi très très importante, et je vous le dis en connaissance de cause pour avoir fait 12 voyages, pendant 12 ans plutôt, une quinzaine de voyages avec des jeunes, qui étaient aussi toute la dimension de la solidarité. Ici, mais aussi là-bas. Toute l'action solidaire, tu valorises un être quand la société valorise ce qu'il fait. Et une action de solidarité, ça valorise. Aider des gens. Aider, se sentir utile. Parce que 80% de ceux qui sont violents, rien dans la société ne leur dit t'es utile. Ils sont inutiles, ils gênent. Et on les oublie dans leur mémoire et dans leurs parents. Sois utile, être présent pour faire des actes de solidarité. Et ça, il faut les penser localement. Être utile par rapport à des personnes âgées, être utile par rapport à des personnes handicapées. Si la République les oublie, si le monde les oublie, toi, il faut que tu donnes aussi la possibilité à ces gens d'être valorisés. Et on a tous besoin de ça. Le regard que les autres portent sur nous et qui disent c'est bien ce que vous faites. Ça, c'est ce qu'a compris qui ? Celui qui est reconnu en France comme la première personnalité. C'est l'abbé Pierre. Il a valorisé des aides qui étaient complètement paumées. La différence entre l'abbé Pierre et nous, c'est que l'abbé Pierre, comme il est un chant connu, les gens se disent, bon, il est chrétien, on le sait, il a une grande foi, on le sait, on ne va pas lui supposer du prosélytisme et de l'infiltration, encore que quand nous, on le fait en tant que musulmans, il y a ça. Mais c'est en se faisant connaître, qu'on soit sur le terrain, que ça disparaît. C'est pas en... Dès que les gens... Évidemment, les premières années, vous allez toujours entendre ça. Puis peu à peu, quand on verra qui vous êtes... Quand on verra ce que font les jeunes, eh ben, on sera dans l'obligation d'admettre que vous faites un travail social. Et que c'est quand même grave, une société qui élève quelqu'un comme l'abbé Pierre et qui peut descendre d'autres alors qu'ils font le même travail. Mais avec le temps, quand on se fait connaître, les choses apparaissent. Le travail de solidarité est un travail de valorisation, de canalisation de la violence. Et je vous le dis, pour me retrouver avec des jeunes, un qui avait défiguré son éducateur, qui s'est retrouvé avec moi au Mali, il avait défiguré son éducateur, on se retrouve au Mali. Je vous promets que dans l'espace du centre éducatif qu'on est en train de faire, ça a été le plus généreux. Il voulait le garder. Le village dans lequel on était, on dit, lui, il faut qu'on le garde, laissez-le nous, parce que lui, il va bien nous aider. Il donnait toute son énergie, parce qu'il se sentait utile. Quand le chef du village vient et lui frappe sur l'épaule et puis lui dit, ben, c'est fantastique, ben, c'est la première fois qu'on lui dit ça. T'as toujours été inutile, t'as toujours été un casseur, t'as toujours été un malhonnête. Cette fois-ci, t'es utile, et en plus, c'est étonnant. À mesure qu'il était utile, son langage perdait de sa vulgarité. C'est ça qui est étonnant. Il devenait moins vulgaire à mesure qu'il était utile. Et ça, c'est un travail sur lequel on a à travailler. Mais encore une fois, comprenez bien, tout ce travail-là ne doit pas être fait entre nous. Il faut développer des partenariats à la base. Développer des partenariats avec énormément d'associations. J'ai trop vu, moi, John qui arrive. Nous, on a la solution. Poussez-vous les éducateurs, poussez-vous les psychologues. L'islam est la solution. On aide une personne 3 ou 4 jours, ensuite on la laisse tomber, en supposant que c'est avec un seul discours islamique, entre guillemets, qu'on lutte contre la dépendance à la drogue, qu'on lutte contre la violence. C'est pas vrai. Il faut des spécialistes. La drogue, c'est une accoutumance du corps, c'est pas un discours simplement qui nous en sort. Il faut de la volonté, il faut accompagner les gens dans la volonté. Et on a besoin de tous ceux qui sont des spécialistes, de ceux qui ont travaillé, des éducateurs qui travaillent. Il faut tous qu'on soit ensemble. Il faut du travail de partenariat sur le terrain, avec des éducateurs sociaux, avec des autorités politiques locales, avec des gens qui comprennent effectivement, avec des enseignants aussi, le travail sur la mémoire. Vaut mieux, à un moment donné, plutôt que de faire des conférences, engager des jeunes dans une association à faire une exposition sur la mémoire de son pays. Fais une exposition au cœur de ta ville, sur ton pays d'origine, sur l'Algérie. Valorise d'où tu viens. Tu sauras qui tu es. Et tu feras connaître qui tu es. Et ça, c'est aussi une dimension qui est un engagement important au niveau du partenariat. Et aussi, et c'est le dernier point sur lequel j'aimerais insister, le passage de cette vision très complexée de certains, même au niveau de la langue, au niveau de leur être, à un passage qui est du fait de subir cette réalité-là au fait de vouloir la changer. Et ça, c'est une chose qu'on doit énormément travailler chez beaucoup de ceux qui sont dans la marge, dans la violence aujourd'hui, c'est l'accès à la compréhension de ce que c'est que cette citoyenneté. T'as des droits dans ce pays. T'as des responsabilités, c'est évident, mais t'as des droits. Et tu as à te faire entendre. Et pour accéder aux droits, il faut que tu accèdes à une bonne compréhension du lieu où tu vis. Ça veut dire la citoyenneté. Comprends bien que dans la marginalité, tu subis plus que tu ne décides. C'est même plus pernicieux que ça. Tu crois décider ce que tu subis. Tu crois décider ce que tu subis, mais tu le subis en fait, toute cette dimension de la violence et autres. Et là, ça demande un travail sur la citoyenneté de formation. Mais là, on a besoin de partenaires aussi. La compréhension du droit, tu as des droits, défends-les. Dans cette société-là, c'est aussi une dimension qui doit nous faire lutter contre la violence et qui doit faire parvenir et dépasser le stade de victime. Et ça, j'aimerais vous dire une chose. Pour que nous réussissions ce que je suis en train de vous dire là, sur les trois domaines, il faut déjà une chose, que nous tous, nous passions de la mentalité de victime à celle d'engager dans la société de personnes qui avons affaire à une épreuve, elle est difficile, et que nous avons des droits à faire valoir, et qu'il faut arrêter, en l'occurrence, de toujours avoir ce discours, nous sommes des victimes, on ne nous aime pas, l'islam est mal compris, et nous on est comme ci, et nous on est comme ça. Tais-toi, descends sur le terrain, travaille dans les cœurs, travaille à éduquer, et change l'environnement social avec tous les partenaires de cette société-là, en disant le droit de tout citoyen dans cet État, dans cette République, c'est que sa mémoire soit respectée, c'est que ses parents soient valorisés, c'est que son être soit de la même façon reconnu pour ce qu'il est. Et ça, c'est un lourd travail. Encore faut-il que chacun d'entre nous le porte comme une responsabilité devant Dieu et devant sa conscience. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله